Vous êtes avec SBS French.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio SBS. Avec vous aujourd'hui, Grégory Pless. Je vais vous accompagner pendant une heure d'émission en français. Au programme, on va faire le point sur les sports et bien sûr les Jeux Olympiques avec une nouvelle médaille d'or pour l'Australie. On reviendra aussi sur le parcours d'une des légendes australiennes de la natation, Dawn Fraser. Et puis, on va parler musique aussi, plus précisément du groupe électro-français Polo & Pan. Et puis, on s'intéressera aussi avec deux universitaires françaises établies en Australie à un documentaire passionnant qui est actuellement à voir sur SBS On Demand. Mais tout de suite, c'est l'heure du journal. On y va. Les principales actualités de ce mardi 27 juillet 2021. Le confinement dans l'état du Victoria et dans celui d'Australie-Méridionale se sera terminé ce soir. En revanche, on ne sait pas encore si celui de Sydney sera prolongé. En Tunisie, une crise politique sans précédent depuis le printemps arabe il y a 10 ans. Et en Polynésie française, Emmanuel Macron poursuit sa visite officielle. Il est arrivé aujourd'hui dans l'archipel des Tuamotu. La Nouvelle-Galles du Sud enregistre aujourd'hui 172 nouveaux cas de transmission locale, un nouveau record depuis l'apparition du foyer épidémique actuel. Parmi ces 172 nouveaux cas, 60 n'étaient pas isolés durant la phase infectieuse. Elle ne s'est, Gladys Bérégé-Client, la chef du gouvernement local, ne s'est en revanche pas prononcée sur le prolongement du confinement qui, à l'heure actuelle, doit officiellement être levé le 30 juillet prochain, une date qui, de toute évidence, va être repoussée.
But are they where we want them to be? To lift the lockdown, they're not. We'll consider the health advice, but also the health advice we've been receiving to date in terms of what life looks like beyond July 31. It's also clear for us that we need to intensify our strategy to ensure that the population comes forward to get vaccinated. So these are all things that we will be considering. And I just ask people, I know it's really difficult not to speculate, but please wait till we make those announcements. I'm hoping to make those announcements as early as tomorrow.
Et cette situation qui s'enlise, c'est l'occasion de rappeler que l'ATAGI, le comité consultatif en matière de vaccins, recommande désormais à toute personne adulte vivant à Sydney de se faire vacciner, quel que soit le vaccin, ce qui signifie, étant donné que le seul dont on dispose en quantité importante à l'heure actuelle est le vaccin produit AstraZeneca, que les personnes âgées de moins de 60 ans aussi peuvent désormais y avoir recours en prenant contact avec leur médecin généraliste. Sur ce sujet, le ministre fédéral de la Santé, Greg Hunt, a tenu à souligner que les avantages de la vaccination avec AstraZeneca dépassent très largement les risques d'effets secondaires. Par ailleurs, la Nouvelle-Galles du Sud annonce l'ouverture d'un nouveau vaccinodrome où on pourra se faire administrer ce vaccin. Les nouvelles sont meilleures un peu plus au sud puisque le confinement dans le Victoria va lui être levé ce soir à minuit. C'est Daniel Andrews, le chef du gouvernement, qui l'a annoncé. Les écoles vont rouvrir et il sera de nouveau possible de pratiquer le sport en milieu associatif. En revanche, les cafés, les restaurants, les salles de sport restent soumises à des restrictions en termes de capacité d'accueil. Le port du masque reste également obligatoire et les visites à domicile sont toujours prohibées. Du coup, Daniel Andrews n'a pas véritablement crié victoire. Il a également ajouté qu'il comprenait parfaitement que ces restrictions toujours en place allaient être difficiles à vivre.
We understand that will be challenging for people who have not seen family and friends for a couple of weeks now, and many for longer periods than that. But we know that this is where transmission occurs. So there's a lot of good news in today's announcements. That's, I know, not the news people want to hear, but it is incredibly important.
Le confinement se sera également terminé ce soir à minuit en Australie méridionale. Il a donc été levé au bout de 7 jours, comme l'avaient initialement envisagé les autorités dans cet état. Stephen Marshall, qui le dirige, a néanmoins indiqué que certaines restrictions allaient être instaurées. notamment des limites en matière de rassemblement, tant à l'extérieur que dans des établissements qui reçoivent du public, et le port du masque sera obligatoire dans les lieux clos. Ceci étant dit, le sentiment général à Adelaide, c'est quand même le soulagement. On écoute Stephen Marshall.
That's a huge relief. It's certainly a huge relief for me and my team. And I want to just again reiterate my grateful thanks to every single person who has done an outstanding job. Now, we're not going straight back to where we were, and I've been messaging this now for quite some time. We don't want to have a relapse. We only want to do this once. And so we are putting some higher level restrictions in over and above what we had prior. But we will be stepping those down as the risk diminishes.
Et les nouvelles sont bonnes aussi pour le Queensland, qui aujourd'hui ne recense aucun nouveau cas de transmission locale. En revanche, l'un des derniers cas détectés ces derniers jours suscite, lui, quelques inquiétudes. Il s'agit d'un homme qui est arrivé de Chine et qui aurait contracté le virus durant sa quarantaine. Il se trouvait en fait dans une chambre d'hôtel faisant face à celle d'un homme porteur du virus et qui arrivait, lui, d'Afrique du Sud. C'est ce qu'a expliqué la médecin en chef de l'État, Janet Young.
I got the whole genome sequence result for that man who traveled from China, and he has exactly the same sequence. It's identical with no SNPs different with a traveler who returned from South Africa via Doha. This gentleman, who is on the same floor, in fact in the room opposite to one of those others, has contracted the infection from that person.
L'un des PDG de l'une des marques les plus connues d'Australie appelle le gouvernement à apporter plus de soutien aux PME du pays, et notamment de Nouvelle-Galles du Sud. Rod O'Rourke, qui est donc le PDG de la chaîne des magasins Best & Less, et dont cours de bourse a chuté de 11% hier, s'inquiète pour ses affaires, mais aussi pour celles de milliers de petits entrepreneurs qui ne peuvent désormais plus compter sur JobKeeper pour rester à flot. Il a donc appelé hier, dans l'émission On The Money sur SBS, le gouvernement à faire plus d'efforts.
There are many, many small, medium-sized businesses, businesses in sectors which have been completely decimated, that do require ongoing support by the government.
C'est une crise politique d'une ampleur sans précédent depuis le printemps arabe qui est en train de se jouer actuellement en Tunisie, alors que le pays fait déjà face à une crise sanitaire sans précédent, provoquée par le variant Delta. Le Premier ministre vient d'être limogé par le président Kais Saied, qui a également suspendu les activités du Parlement pour une durée de 30 jours. Depuis, des milliers de personnes se sont rassemblées devant le Parlement à Tunis. D'un côté, on trouve des partisans du président, de l'autre, ceux du parti Ennahda, la formation politique dont est issu le Premier ministre qui vient d'être évincé. Et ces derniers dénoncent un coup d'État. On écoute le reportage d'Amélie Tullet pour Radio France Internationale.
Il y a deux semaines, le représentant de l'Organisation mondiale de la santé déclarait la Tunisie dépassée par la situation sanitaire. Pénurie d'oxygène, hôpitaux saturés et personnel soignant à bout de nerfs, plusieurs pays ont envoyé une aide médicale d'urgence. Les appels à l'aide se sont multipliés sur les réseaux sociaux et la diaspora tunisienne se mobilise. Avec 18 000 morts pour 12 millions d'habitants, le pays connaît actuellement le taux de mortalité le plus élevé du Maghreb et du continent africain. Et le nombre de Tunisiens vaccinés reste insuffisant pour ralentir significativement la transmission du coronavirus. Au sommet de l'État, les tensions entre présidence, primature et assemblée entravent depuis plusieurs mois l'action publique et la gestion de la réponse sanitaire était ces dernières semaines de plus en plus critiquée. Il y a 6 jours, le ministre de la Santé a même été limogé après un raté dans la campagne de vaccination. Il avait annoncé l'ouverture des centres à tous les plus de 18 ans à l'occasion des congés de l'Aïd. Une opération arrêtée dès le deuxième jour face aux bousculades, aux files d'attente interminables et à la déception provoquée devant le manque de doses réellement disponibles. Blocage politique chronique et aggravation de cette crise sanitaire ont nourri en Tunisie l'exaspération à l'origine des manifestations hier, jour de la fête de la République, et ce avant l'annonce du président Saïed de geler les activités du Parlement.
Aux États-Unis, le maire de New York, Bill de Blasio, vient d'annoncer que tous les employés municipaux, 340 000 personnes, parmi lesquelles notamment les policiers et les enseignants, devront être vaccinés d'ici à la mi-septembre, sans quoi ils devront à partir de cette date se soumettre chaque semaine à des tests prouvant qu'ils ne sont pas porteurs du coronavirus. Le 13 septembre, ce n'est pas une date qui a été choisie au hasard, puisque elle correspond en fait à la rentrée des classes à New York. Or, le maire souhaite que les élèves puissent retourner à l'école à plein temps. Bill de Blasio a par ailleurs appelé les écoles privées à appliquer les mêmes mesures.
My message to the private sector is go as far as you can go right now. Do what you can do. Private entities have the right to make a lot of choices. They have a lot of freedom. They can set their own rules. Each private sector employer needs to do what they believe is right. But I would strongly urge a vaccination mandate whenever possible or as close to it as possible, at minimum requiring all your employees to get vaccinated or to do weekly testing.
À New York, environ 65% des adultes sont complètement vaccinés. Ceci étant dit, la ville est confrontée depuis quelques semaines à une poussée du variant Delta. Et un autre pays d'ailleurs confronté à une hausse du nombre de cas porteurs du variant Delta, c'est les Philippines, où le gouvernement vient d'annoncer un confinement ciblé sur les enfants âgés de 5 à 17 ans, des enfants qui venaient de sortir il y a pourtant à peine 3 semaines du confinement le plus long du monde. À Manille, le reportage de Manon Tomzig pour RFI.
Elena Magalang habite un quartier populaire de Manille. Elle ne sait pas comment elle va annoncer ce nouveau confinement à son fils de 12 ans.
Il va sûrement être très déçu. Je pense que c'est difficile pour lui parce que ça fait longtemps qu'il est confiné à la maison, depuis le début de la pandémie. On n'a pu aller se promener avec lui que quelques jours alors que c'est un enfant très actif qui court partout.
C'est d'autant plus difficile pour lui qu'il est le seul des quatre enfants de la famille à avoir moins de 17 ans, donc le seul du foyer à être à nouveau confiné.
Quand on sort, il demande toujours s'il peut venir avec nous, mais il n'a pas le droit. Parfois, il se met à pleurer. Alors je fais en sorte de toujours lui rapporter un petit cadeau.
Obligé de rester à la maison depuis près d'un an et demi, il tourne en rond. Ses parents ont remarqué le poids du confinement sur son comportement.
Il reste allongé sur le lit ou il va chez les voisins. Sinon, il regarde la télé ou il joue avec le téléphone portable. Parfois, quand on lui demande de faire quelque chose, il se met en colère.
Les enfants ont également peu d'espoir de retrouver les bancs de l'école prochainement. La rentrée scolaire a été repoussée de 6 semaines et aucun retour en classe n'a été annoncé. Manon Tomzig, Manille, RFI.
C'est un petit pays perché dans l'Himalaya dont on entend très rarement parler. Le Bhoutan vient d'annoncer la vaccination de la totalité de sa population adulte, ce qui fait de cet État, qui compte environ 750 000 habitants, le premier au monde à atteindre cet objectif. Un objectif rendu possible grâce aux dons par l'Inde de 550 000 doses de vaccins. Emmanuel Macron, le président français, poursuit son déplacement en Polynésie française. Il est arrivé il y a quelques heures sur l'atoll de Manihi, dans l'archipel des Tuamotu. Aujourd'hui, son déplacement est consacré à la question du changement climatique. Hier, en revanche, il était dans les îles Marquises, à 1400 km de Tahiti, une destination où aucun président français en exercice ne s'était par le passé rendu. Au cours de cette visite, hier, il s'est recueilli sur les tombes du peintre Paul Gauguin et du chanteur Jacques Brel. Il a aussi tenu à rendre hommage à la culture et aux traditions polynésiennes. Il s'est également engagé à soutenir auprès de l'UNESCO le classement des îles Marquises au patrimoine mondial de l'humanité. Écoutez-le.
Je me battrai à vos côtés pour que nous puissions classer à l'UNESCO les Marquises. Et le faire parce que c'est à la fois cette nature, cette biodiversité, ça n'est pas un mot technique, c'est votre vie, ce sont vos paysages, ce sont vos oiseaux. Ce sont nos paysages, ce sont nos oiseaux. Et se battre aussi pour ces traditions, cette culture, ces civilisations que vous portez et que vous honorez.
À Paris, l'extension du pass sanitaire a été votée définitivement dimanche. Il sera obligatoire pour s'attabler dans un café ou un restaurant dès la fin de la semaine, le 1er août. Et ça ne rassure pas vraiment les restaurateurs qui craignent de perdre de la clientèle. Hier, Alice Rougeat est allée les interroger à Paris pour RFI.
Depuis ce lundi matin, les restaurateurs n'ont qu'un mot à la bouche, le pass sanitaire. À partir de la semaine prochaine, ils devront vérifier que les clients en possèdent bien un. Et dans le cas contraire, ils se verront dans l'obligation de refuser de servir. C'est ce que redoute Elodie. Elle tient un restaurant dans le sud de Paris.
On va être obligé de refuser des clients alors qu'aujourd'hui, on n'a qu'une envie, c'est de travailler. On a quand même fermé en tout 9 mois et on n'a qu'une envie, c'est de bosser. Donc notre intérêt, il n'est pas de dire non aux gens parce qu'ils n'ont pas un pass sanitaire. J'estime que c'est pas tellement notre place de faire ça.
L'idée de contrôler les clients ne séduit pas non plus Karim, gérant d'un établissement, mais pour lui, la priorité, c'est de maîtriser l'épidémie.
On refusera, oui, l'accès, clairement. C'est la législation, on suivra la législation en vigueur. Je pense que c'est d'abord une question de bon sens.
Si les restaurateurs ne respectent pas la règle imposée, ils pourront faire face à des sanctions administratives pouvant aller jusqu'à la fermeture de leur établissement. En ce qui concerne les employés, ils seront obligés eux aussi de posséder un pass d'ici à la fin du mois d'août, une mesure qui passe mal pour ce serveur.
Même si on n'a pas envie, on n'a pas le choix, sinon on perd le boulot. Et on est obligé de travailler. C'est pas que moi, c'est tous mes collègues, on est dans l'obligation d'être vaccinés. Alors j'espère qu'on sera prêts d'ici fin août.
Même si l'application de ces nouvelles mesures ne fait pas l'unanimité, tous les respecteront. Car après 9 mois de fermeture à cause des confinements successifs, ils comptent bien sur la saison estivale pour renflouer les caisses.
On fait le point maintenant sur la météo de ce mardi en Australie. 18 degrés à Perth, 19 degrés à Adelaide où la pluie pourrait s'inviter plus tard dans la journée. 17 degrés à Melbourne, 14 degrés à Hobart, 22 degrés et du soleil aujourd'hui à Sydney. Soleil aussi à Brisbane où il fait 23 degrés et jusqu'à 32 degrés sous le ciel de Darwin ce mardi. C'était Cœur de Pirate et ce morceau qui s'intitule Plan à 3. Allez, on passe maintenant au magazine des sports avec Jean-Noël Ducasse qui va nous faire un point complet sur les derniers résultats, notamment aux Jeux Olympiques.
Journal des sports de ce mardi avec tout d'abord les JO de Tokyo natation et c'est l'Australienne Kayleigh McEwan qui a remporté la médaille d'or tout à l'heure pour le 100 mètres d'eau, un record olympique devant Kylie Mass, la Canadienne, et l'Américaine Regan Smith a pris le bronze. C'est le Russe Evgeny Rylov qui lui a remporté la médaille d'or pour le 100 mètres d'eau. Le 200 mètres nage libre remporté par le Britannique Tom Dean devant son compatriote Duncan Scott, le Brésilien Fernando Schaefer a pris la médaille de bronze. On revient sur les performances d'hier. La performance d'Ariane Titmus, l'Australienne qui a battu l'Américaine Katie Ledecky, tenante du titre sur le 200 mètres nage libre. Les Australiens ont pris le bronze pour le relais 4 x 100 mètres messieurs. Les Américains remportent l'or et l'Italie l'argent. Emma McEwen a gagné le bronze pour le 100 mètres papillon. Marie-Amélie Mott revient sur la journée d'hier.
Tables américains déjà sacrés à Rio en 2016. Ils se sont imposés en 3 minutes 8 secondes et 97 centièmes. Jamais inquiétés par les Italiens deuxième et les Australiens troisième. Un relais américain emmené par l'incontournable Caleb Dressel. Le nageur de 24 ans est engagé sur 7 épreuves à Tokyo. Le voilà donc avec une première médaille d'or en poche. La France, elle, ne termine que 6e de ce relais malgré l'impulsion donnée par Maxime Grousset qui a battu son record personnel sur 100 mètres. Puis par Florent Manaudou, mais le quatuor n'a pas tenu la distance avec ses deux derniers relayeurs, Clément Mignon et Mehdi Metella, conscient d'être le maillot faible de l'équipe.
On va dire que j'étais pas l'homme fort de ce relais. On va dire chacun de cette équipe a joué son rôle. Et Max, il nous propulse vraiment sur une autre planète. Mais bon, après, on va pas cracher sur le relais. Il n'y a même pas à Glasgow, en fin d'Europe, on n'avait même pas une finale. Alors aujourd'hui, on ne va pas cracher sur une finale olympique aux 4x100. Et il commence à monter.
Côté femme, grosse surprise sur l'épreuve du 400 mètres. La jeune Australienne Ariane Titmus a chippé la médaille d'or à la reine américaine Cathy Ledecky, qui doit se contenter de la médaille d'argent. Titmus offre à l'Australie son premier titre individuel chez les femmes depuis 2008.
Hier soir, la Française Sarah Léonie Sissik a remporté la médaille d'argent pour le judo en finale de la catégorie moins de 57 kilos et le bronze pour l'escrimeuse Manon Brunet. Sofiane Namazian, Radio France Internationale.
Léonie Sissik empoche l'argent en moins de 57 kilos après s'être inclinée en finale face à la Kosovare Nora Gjakova sur disqualification. Le juge a considéré qu'elle s'était aidée de sa tête pour porter une attaque, ce qui est interdit. Une décision qu'elle ne comprend pas vraiment.
J'ai un petit sentiment d'injustice parce que pour moi, c'est vraiment pas moi qui fais cette action dangereuse. Et donc oui, je suis dans l'incompréhension, mais c'est les arbitres qui décident, malheureusement, c'est leur vision des choses et on n'y peut rien. Quand je gagne en demi-finale, j'étais super heureuse de me dire que je partais avec une médaille, mais je sentais tellement ce combat à m'apporter que je me suis vraiment dit, je vais repartir avec ma médaille d'or. Mais après tout ça, je sais que je vais être contente de cette belle médaille que je vais ramener.
Manon Brunet a écrasé la Hongroise Anna Marton 15 touches à 6 lors de la petite finale. À 25 ans, elle devient la première sabreuse française de l'histoire à décrocher une médaille olympique. Manon Brunet savoure cette médaille de bronze, même si la déception était grande après sa défaite en demi-finale.
Je l'ai fait. Ouh, soulagement. Je réalise pas du tout, mais soulagement. Bah franchement, après la demi-finale, je pensais pas pouvoir me battre encore. J'ai tellement pleuré, j'étais même pas sortie de la piste que j'étais en train de me dire aux autres, j'y arriverai pas, c'est trop dur. J'ai trop peur. Heureusement, tout le monde a été là pour moi. Même mon copain qui est en France, qui s'est levé ce matin super tôt. Je sais que j'ai reçu des messages de mes parents, mais je n'ai pas voulu les lire avant de tout terminer. C'était dur, mais heureusement on a su me dire ce qu'il fallait. On a su me dire de profiter des Jeux Olympiques, de cette piste qui est magnifique, et de me battre aussi pour tous les autres, et pour moi aussi surtout.
Et puis dimanche, il y avait l'exploit de l'épéiste Romain Canon, médaille d'or pour l'escrime, la première médaille d'or de la France à ces Jeux. Christophe Diremzian revient sur le parcours de Romain Canon.
Et dire qu'il n'aurait dû voir Tokyo que pour l'épreuve par équipe. Romain Canon n'avait pas encore le profil pour être incontournable, talent prometteur à 24 ans, mais seulement 47e mondial, et jugé encore un peu tendre pour une place en individuel. Mais le mois dernier, son destin bascule lorsqu'il remplace au pied levé son coéquipier Daniel Gérant, visé par une enquête pour dopage et un diurétique. Il est censé apprendre, mais c'est finalement lui qui donne la leçon. 5 membres du top 10 mondial y sont passés, un champion olympique de Londres, un vénézuélien, puis un néerlandais, un russe. Avant la démonstration face à Ciclossi, leader incontesté de la discipline, champion du monde, assommé par la fougue de ce petit gabarit, globe-trotteur dans son enfance, emmené dans les bagages de ses parents au Brésil, puis à New York, où il découvre l'escrime. Formé à l'école ukrainienne, la progression aura été lente, mais ce passionné d'escalade a prouvé qu'il pouvait grimper très vite vers le sommet. Il est le premier escrimeur français à remporter un titre olympique individuel depuis Brice Guyard en 2004. Quant aux épéistes tricolores, ils ont enfin trouvé le successeur d'Eric Srecki, sacré à Barcelone en 1992.
Basketball, la France a battu les États-Unis pour son premier match et bilan du match avec Eric Mamrut pour RFI.
À croire qu'ils sont blasés, les Bleus. Deux victoires tricolores face aux États-Unis version NBA, c'est pourtant du jamais vu. Mais l'arrière Nando de Colo est bien conscient que la bande à Kevin Durant n'est pas encore à son meilleur niveau.
Peut-être pour tout le monde c'est incroyable. Nous, on essaye juste de faire notre boulot sur le terrain. On est évidemment très content du résultat qu'on a fait ce soir. Je ne vais pas dire que c'est normal ce qui se passe ce soir, mais c'est des joueurs qui sont arrivés très tardivement, qui au fil des compétitions montent toujours en puissance. Donc voilà, bien se reposer, se concentrer maintenant sur la République tchèque et continuer d'avancer ensemble.
Face à des individualités américaines pas encore amalgamées, les Bleus ont en effet répondu par un jeu collectif bien huilé, une défense et un mental de fer. Evan Fournier, meilleur marqueur avec 28 points, s'occupant de renverser le score. L'atout majeur de cette équipe de France, selon son coéquipier Mustapha Fall.
C'est clairement notre leader offensif. On le savait même avant même qu'on se réunisse tous à la prépa. Et je pense qu'il le sait aussi. Donc là, il s'est préparé en fonction. Il s'est comporté en leader pendant toute la préparation. Il se comporte en leader encore ce soir. Donc c'est très bien.
Désireux de regoûter 21 ans après l'argent de Sydney à un podium olympique, les Bleus ne veulent donc pas céder à l'euphorie, espérant secrètement pouvoir infliger le même sort aux Américains dans 2 semaines en finale.
Dimanche, le Tunisien Ahmed Afnaoui, 18 ans, a créé la surprise et a gagné le 400 mètres nage libre, comme nous l'explique Sarah Loubakouche pour RFI.
Oui, car on ne l'attendait pas vraiment sur le podium, pas du tout Ahmed Afnaoui. À seulement 18 ans, il partait du plot 8, synonyme de dernier temps hein, parmi les qualifiés. Et au final, ce temps incroyable, 3 minutes 43 secondes 36 centièmes. Il finit devant l'Australien Jack McLaughlin et l'Américain Kieran Smith, qui était pourtant favori dans cette épreuve. Mais non, elle est pour lui au final cette médaille d'or. Lui qui pourtant débarquait à Tokyo avec un CV un peu léger, quatrième aux Mondiaux Juniors en 2019 et un podium aux Jeux Africains de la Jeunesse. Donc cette victoire, elle est invraisemblable même pour Afnaoui lui-même.
Je me sens fier, je suis heureux d'avoir gagné la médaille d'or. Je n'arrive pas à réaliser. Durant les 200 derniers mètres, je me sentais bien dans l'eau. J'allais vite, je me suis surpris moi-même. Je n'arrivais pas à y croire jusqu'à ce que je touche le mur. Quand j'ai vu mon nom en premier, j'ai eu les larmes aux yeux. Et quand j'ai vu le drapeau de mon pays se lever, j'ai été très fier. J'ai eu les larmes aux yeux, parce que quand j'ai vu le
drapeau de mon pays, je suis très fier. Voilà pour le journal des sports de ce mardi. Vous écoutez Radio SBS, le programme en français.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Docteur Christelle Maisonneau et Docteur Daniel Claude de Flinders University en Australie du Sud nous parlent du documentaire French Science on the High Seas, Voyages of Exploration and Discovery. Ce documentaire passe sur la télé SBS On Demand en ce moment même. Et tout d'abord, la parole est à Christelle Maisonneau.
Il s'agit d'un documentaire consacré aux explorations françaises dans le Pacifique et en Australie. Donc nous nous concentrons en fait sur les explorations scientifiques, les explorateurs scientifiques qui ont contribué à créer le début de la biologie moderne.
Et peut-être parlez-nous brièvement du bilan que vous faites de l'engagement de la France en ce qui concerne les recherches et les découvertes fin 18e siècle et début du 19e siècle dans cette région du monde. La France était à l'avant-garde, on imagine, en matière de recherche scientifique.
Oui, tout à fait. Disons que, quels que soient en fait les monarques ou ensuite les républicains qui ont été au pouvoir en France, ils ont continué de financer ces explorations scientifiques. Hein, ça demeurait vraiment un point d'intérêt énorme pour la France. Et donc à chaque fois, chacun des bateaux qui revenaient rapportait des collections qui étaient ensuite soigneusement classées, par exemple au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris.
Et aussi dans le jardin de Joséphine Bonaparte.
Oui, tout à fait.
Madame Maisonneau, parlez des travaux en cours en ce moment en Bretagne sur les spécimens de plantes, je crois, récupérés de l'expédition La Pérouse.
Donc nous avons été en contact, nous sommes en contact avec le Conservatoire botanique de Brest et ce conservatoire a fait différents travaux, notamment à partir des graines de Banksia pour voir s'il était possible de tirer parti des graines qui avaient pu être trouvées qui dataient du temps effectivement de l'expédition La Pérouse.
Donc il y a ce partenariat avec la Bretagne et l'Australie du Sud concernant ce projet.
Oui, tout à fait. En fait, c'est parce que nous avons obtenu un financement en 2018 de la part du Department of Premier and Cabinet pour justement créer des liens avec la Bretagne et plus particulièrement les musées bretons et les universités bretonnes. Donc nous avons pu faire un voyage en juin 2019, et nous avons pu établir des premiers contacts sérieux avec nos partenaires, des musées bretons, des universités.
Merci à vous, merci d'être intervenu sur les ondes de SBS French. Bonne continuation. Et
je vous en prie, c'est avec plaisir.
Et à une prochaine fois.
Merci, au revoir.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
pleasure of welcoming on the French language program Dr. Daniel Claude from Flinders University. Welcome.
Thank you. It's lovely to be here.
You're a maritime historian from the College of Humanities, Arts and Social Sciences.
Yes, well, I guess I'm more of a scholar of maritime history. So I'm generally a creative writer, and I research in lots of different areas, one of which is maritime history.
And we're speaking on the extraordinary voyages of French scientific discovery in the Pacific region in the late 18th and early 19th century. What can you tell us about the documentary?
Okay, so we decided as part of Science Week, National Science Week, to do an online presentation because it's so difficult to give talks and lectures at the current moment. So we put together a film version. So we're hoping to make that a bilingual film. That tonight's viewing will just be in English, but we have a bilingual track as well that will be available for screening. So it just covers the kind of the history of French voyages of exploration during that period when they were most focused on science and discovery. So tracing from Bougainville through to Dumont d'Urville.
And all the plants and animals made their way to the Paris Natural History Museum, and some ended in Josephine's garden, I believe.
That's right. So that's one of the characteristic features of the French voyages of exploration, which is distinctive from the English voyages and some of the other countries, is that the French were very organised with the scientific influence. So the Museum of Natural History in Paris was a very big promoter of these voyages and very keen to have good scientists on board and making sure that they had the staff and the budget to do really good research. So they would have artists and botanists and geologists and other people on board doing the research. And as a result, all of the collections tended to go back to the Paris Natural History Museum. There were a couple of little exceptions to that, but mostly the collections went back. So some of them did go to Josephine's garden. That's one of the exceptions. but by and large, most of them are still in the Paris Museum today, so you can search the collections and find them.
So would I be correct in saying that France was at the forefront of research and discovery during that period of history, better than the British?
Absolutely. It's one of the things about France is that they professionalised the biological sciences quite early. So this is at the very beginning of the biological sciences. And the Natural History Museum was quite important in that development, and I guess partly it was also pretty encouraged along by the French Revolution, because there was a tendency for early science to be done by wealthy gentlemen who could afford to do science as a hobby. So people like Joseph Banks, for example, who funded his own research. Whereas the French went down the path of employing people and insisting that people had to be paid for their work, so they didn't allow people to be aristocrats and do science. They had to become professional scientists. So that sort of changed the dynamic and made them much more systematic and organised in their research. And as a result, there's much better records from France for that period.
And I also believe, according to the media release, that there's a research collaboration between Brittany and South Australia, a bilateral project?
Yes, so Christelle Magneau and I have been working with some of the Breton maritime museums, and we've been over and visited, and we were hoping to go back again very soon, but that's not going to happen now. It'll be a bit delayed. But yeah, it's our interest is in building connections with Brittany and South Australia and promoting that shared history and the cultural exchange that we can do through this shared history. So that's been a really exciting development, and this film is part of that, because we will hope to screen the film in Brittany when we get to travel there.
And the research will happen also in Mauritius in 2023.
Yes, I am hoping to get to Mauritius then as well. So that particularly relates to some of my work on Cumafon, because I have a new book on the Bougainville voyage. So it's in search of the woman who sailed the world. So it's about Bougainville's assistant, Jeanne Barret, who was the first woman to circumnavigate the world. So that's a really exciting development as well. And she spent quite a lot of time in Mauritius, as did the botanist Cumafon. And So that's something that we've been working on with researchers in Mauritius.
And can you tell us a bit more about Jeanne Barret? She was disguised as a man, I believe, to get on board the ship?
That's right, yes, she did. She disguised herself as a man because, of course, it was illegal to have women on the French naval vessels. And she worked as Commerson's assistant, and she was a very highly skilled botanist in her own right. And she maintained her disguise fairly successfully all the way across the Atlantic, down South America, around through the Straits of Magellan and across to the Pacific. But the story goes that when she was in Tahiti, the Tahitians immediately recognized her as a woman and were very keen on winning her attention. So she had to return to the ship. And after that, her identity was known, but she continued doing the same work until the ship got back to Mauritius, and that's where she and Commerson disembarked to continue doing some botanical work in Mauritius before ultimately she returned to France, although Commerson didn't make it. He died in Mauritius.
Thank you so much for coming on to the French language program, Dr. Daniel Claude, and all the best.
My pleasure. Thank you for having me.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
On vient d'écouter un extrait assez long du morceau « Maintenant ou jamais ». Il est interprété par le groupe Catastrophe. Allez, pour terminer l'émission du jour, on va rester dans le registre musical. Je vous propose maintenant d'écouter une interview avec Polo du groupe électro-français Polo & Pan. Ils viennent de sortir un nouvel album. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir avec nous le groupe Polo et Pan, en tout cas l'un des deux membres de ce duo, en l'occurrence Polo, bonjour.
Salut, ça va?
Très bien, merci, et merci d'être sur SBS French. Alors, on se parle aujourd'hui parce que vous avez sorti récemment un nouvel album qui s'appelle Cyclorama. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu?
Alors, Cyclorama, c'est donc notre deuxième album. C'est un deuxième album qu'on a composé un peu plus sur la route cette fois-ci. Pour ceux qui connaissent pas le premier album, notre groupe Polo & Pan, on fait une musique assez, on fait de la musique électronique avec des inspirations assez world music. On va emprunter beaucoup à la musique d'Amérique du Sud. Il y a de la chanson française, mais aussi de la musique africaine. Il y a un mélange de plein d'inspirations différentes. Et on faisait une musique très solaire dans le premier album. Et je dirais que sur ce deuxième album qu'on a composé un peu plus en tournée, donc dans des moments d'inspiration un peu plus divers et variés, il y a plus d'équilibre entre des chansons très solaires et des chansons plus, je dirais, lunaires. Chansons comme Tunnel ou Requiem sont plus des chansons nocturnes, alors qu'avant on était vraiment uniquement dans un espace solaire. Donc je pense qu'il est plus équilibré dans ce sens-là, il y a un peu plus de maturité sur cet album avec ça.
D'accord, c'est intéressant que vous disiez que vous avez développé les morceaux en tournée. Vous avez énormément tourné, effectivement, jusqu'à ce que ça soit plus possible nulle part. Mais vu la date de sortie, je pensais que vous y aviez travaillé pendant le confinement, la pandémie. Et je me demandais si, d'une manière ou d'une autre, ça avait influencé votre musique.
Tout à fait, non, mais on a travaillé pendant la pandémie. Mais c'est vrai qu'à la fin de la tournée, on avait peut-être 30 ou 40 maquettes qui nous intéressaient. Et on a pu, justement, dans des bonnes conditions, on a pu choisir un peu les morceaux qui... Il y avait aussi des morceaux qui étaient plus faciles à travailler que d'autres parce qu'avec les conditions de la pandémie, forcément, les collaborations étaient un petit peu plus compliquées. Donc, on a choisi ces morceaux qui aussi avançaient le mieux. Ceux qui prenaient forme le plus étaient prêts, étaient mûrs pour être dans l'album. Et je dirais que la pandémie, elle a plus apporté quelque chose sur le concept de l'album puisque Cyclorama, après le premier album, on parlait plus d'un voyage dans l'espace avec Caravelle. Là, on parle plus d'un voyage dans le temps. où on parlait de l'existence humaine, la naissance, le premier morceau, c'est pour la naissance du fils d'Alex qu'on a écrit. Il y a un requiem aussi, il y a le temps de la mort, il y a des morceaux qui sont sur la transcendance. Enfin bon, voilà, c'est un peu le concept narratif, il est venu pendant la pandémie parce qu'on pensait tous un petit peu, forcément on était retirés de nos vies, on pensait un petit peu aussi à la mort, c'était quelque chose d'un peu flippant cette pandémie. Surtout au début, je pense que tout le monde était très angoissé. Et nous, on a pris ce temps-là et on s'est dit, ce concept, il pourrait bien marcher avec ces chansons. Et c'est vrai qu'on aime bien rajouter aussi un narratif sur chaque album, qui est un petit peu de concept, même si évidemment la première intention, c'était de faire de la bonne musique.
Alors, j'ai vu effectivement que vous aviez des dates de prévues en Amérique du Nord et en Europe, pas en Australie, mais en même temps, en ce moment, personne ne peut rentrer en Australie. Ça vous fait plaisir, j'imagine, de retrouver le public, vous qui avez commencé en club.
Là, on mixait encore hier et c'est vrai qu'on continue à être DJ. On a même joué un peu pendant la pandémie, on a réussi à jouer une fois au Mexique, on est parti un peu pour un événement privé et ça nous manquait vraiment. Et là, on est super content de recommencer à mixer. Et refaire un live, c'est super excitant, mais c'est beaucoup de travail parce qu'il va falloir intégrer tout le deuxième album, recréer une scénographie. Donc ça, on n'est pas encore prêt. Ça serait comme vous le disiez, ça sera à partir de décembre avec les États-Unis, ensuite l'Europe. Mais bon, je pense qu'on adorerait continuer la tournée le plus loin possible. On adore voyager et venir en Australie, ça serait un rêve. Un jour de pouvoir visiter ce pays, hein, mais c'est vrai que c'est très loin pour les Français, donc j'espère qu'on trouvera le moment. On réussira à intégrer ça à une tournée prochainement.
Bah, l'électro française est en tout cas très populaire ici. La scène australienne en la matière n'est pas aussi foisonnante que la scène française, mais il y a quand même quelques artistes qui se démarquent. Est-ce qu'il y en a qui vous plaisent particulièrement, que vous connaissez?
Ouais, enfin moi j'aimais bien une scène d'il y a 5 ans comme Empire of the Sun et Midnight Juggernauts et je les avais vus à Calvin the Rocks voilà, ça c'est des groupes qui m'ont vachement inspiré au moment où on créait Paul and Pan au début. Voilà, c'était des influences fortes et je trouvais que le son australien était vraiment super bien produit. Je veux dire, Empire of the Sun, c'est vachement impressionnant le niveau de prod qu'ils ont. Donc ouais, on connaît le son australien et on aime ça.
D'accord. Dernière question, rien à voir en fait avec l'interview, mais en faisant mes recherches avant qu'on discute ce soir, j'ai googlé votre nom et je suis tombé sur une page Wikipédia qui parle de votre arrière-grand-père qui, il y a 70 ans, a accidentellement tué quasiment tous les lapins d'Europe en répandant le virus de la myxomatose. C'est dur à vivre comme héritage.
C'est une vieille histoire quand même, mais il faut savoir que donc mon arrière-grand-père, docteur Paul Armand de Lille, il a aussi créé le vaccin contre la tuberculose et qu'en fait cette pandémie, il l'a inoculé à cause d'un collègue australien qui lui a envoyé ce virus. Ça vient d'un collègue australien, c'était un virus qui existait en Australie et il l'a testé sur un lapin dans son parc. Dans sa propriété qui est murée et il pensait buter 10 lapins et finalement il a tué 60% des lapins d'Europe en 3 mois, ce qui lui a valu vraiment la haine des chasseurs mais aussi l'amour des agriculteurs qui ça protégeait forcément les cultures.
D'accord, donc nouvel album bientôt en tournée et déjà de retour derrière les platines, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter d'autre?
On a des envies forcément, mais de voyager, de découvrir des nouveaux territoires, d'ouvrir des nouveaux territoires. L'Amérique du Sud, par exemple, c'est un territoire auquel on a beaucoup emprunté. On a beaucoup fait de bossa nova, de référence à la musique latine. Donc c'est quelque chose qu'on prévoit et je pense que ça va être génial d'aller au Brésil, en Colombie, au Pérou, enfin découvrir tous ces pays. Et on aimerait aussi faire de la musique avec le cinéma. Je pense que ça c'est un des rêves qu'on aimerait bien réaliser dans le futur. Donc voilà, peut-être faire une musique pour Pixar, pour un film d'animation, ça serait un super quelque chose qui naturellement nous attire et je pense qu'on pourrait s'éclater en faisant quelque chose comme ça.
Ben merci beaucoup. Remettez-vous bien pour cette vaccination, donc qui apparemment vous a un petit peu mis sur le carreau. J'espère que ça passera vite. Mes parents m'ont dit que ça a duré 2-3 jours comme une vilaine grippe. Voilà, j'espère que ça durera pas.
Ouais, c'est
pas
ça. Dans le jour 2, c'est un peu le dur, mais je suis sûr que ça ira mieux demain. Merci beaucoup, Grégory, pour cette interview. C'était super sympa.
Je vous en prie. Merci, Paul. À bientôt.
À bientôt.
I'm
SBS en français, c'est fini pour aujourd'hui. On se quitte donc sur ce morceau, Annie Cooney, extrait du dernier album du groupe Polo & Pan avec qui on vient de discuter. En ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous jeudi à 13h précise pour une nouvelle émission en direct. Et puis je vous rappelle que vous pouvez aussi écouter l'ensemble de nos émissions, reportages et interviews en podcast en vous abonnant à notre chaîne SBS French. Un grand merci à Guy qui m'a accompagné aujourd'hui pour cette émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.